C'est bon, ouais.
Bon, bah déjà, bah, merci beaucoup à tous et toutes d'être venus ce soir. En fait, je pensais pas qu'on serait si nombreux parce qu'en parallèle avec la situation, il y a une soirée poésie en même temps. Okay. Je pensais que tout le monde allait aller là-bas et que je serais moins nombreux ici, mais c'est très cool.
Contre-soirée.
Mais c'est très, je suis vraiment très content que vous soyez tous et toutes venus. Voilà. Je vais peut-être commencer par raconter comment j'ai rencontré l'ethnocafé. En fait, j'étais à une soirée poésie à la corniche juste au-dessus. Je suis passé devant les baies vitrées juste là et j'ai trouvé les petits fascicules que vous mettiez à l'entrée. J'en ai pris deux comme ça, je me suis enfui comme un voleur. Et après, je l'ai lu chez moi et j'ai eu envie de vous contacter, de vous rencontrer d'abord à une des conférences. Et après, voilà. Et puis ça m'intéressait aussi de venir participer un peu à vos activités ici. Alors, je vais à une présentation qui a duré à peu près 45 minutes. Je ne savais pas trop si je devais faire quelque chose de très précis sur un sujet précis ou plutôt quelque chose de plus général. Donc, c'est plutôt ce que j'essaie de faire. Et ce qui va permettre aussi de faire un peu un tremplin pour le débat. N'hésitez pas si je ne parle pas assez fort ou quoi que ce soit.
Oui, parlez plus fort.
Eh bien, je parlais plus fort. Et je disais, vous pouvez me demander si je ne parle pas assez fort, justement. Et aussi, ça ne me dérange pas si vous ne comprenez pas un point précisément, que vous m'interrompiez pour me demander une précision ou une explication. Si vous avez évidemment des réflexions, des rebonds, il vaut mieux les garder pour la deuxième partie. Mais s'il y a un point que vous ne comprenez pas, ça ne me dérange pas du tout qu'on m'interrompe. Voilà. Alors, moi, j'ai souhaité commencer cet exposé à partir d'un article. Paru en 2023 et qui s'intitule « La technique à l'épreuve du soin ». Donc c'est un article qui est semi-universitaire et qui est écrit par Philippe Bizouarn, qui est à la fois chercheur à l'Université de Paris sur des questions de la médecine et du soin, et en même temps praticien hospitalier au CHU de Nantes. Alors, Philippe Bizouarn, il part du constat qui est assez largement partagé aujourd'hui, d'une crise du système de la prise en charge hospitalière des patients. Et alors il va prendre l'exemple de l'introduction des technologies dématérialisées, donc c'est plutôt des badges à l'entrée, pour qu'il n'y ait plus un accueil physique des personnes. Et donc cela, ça réduit la proportion des échanges et d'accueil humain à l'hôpital. Mais à partir de cet exemple précis, de manière plus générale, il va essayer d'expliquer cette crise comme la focalisation d'un système de soins sur le traitement, aussi appelé le cure, donc c'est le terme anglo-saxon, par les institutions de la santé, et au détriment de l'accompagnement du soin, le care. Donc c'est vraiment les deux termes dans les domaines anglo-saxons qui reviennent, care et cure. Voilà. Et donc il y aurait ainsi la prédominance d'un acte technique, par exemple la réalisation d'un acte chirurgical, la prescription d'un médicament, donc, prédominance de ça, un acte technique sur la relation soignante. Philippe Bizouarn y parle aussi de présence soignante. Entre donc, le sujet du soin, qui est parfois même réduit à un objet qu'il faudrait prendre en charge, et l'équipe soignante, à qui il n'est pas offert le temps simplement de participer à une véritable relation avec le patient, qui souvent est rencontré entre deux portes, entre deux rendez-vous. L'acte technique du cure, il doit permettre de dispenser le praticien ou la praticienne du soin de la présence soignante pour des histoires organisationnelles de temps. Et donc vraiment, l'acte technique, en tout cas c'est ce que je propose, il est vraiment pensé pour faire oublier l'absence de cette présence soignante. Pour cela, cet acte technique, il doit pouvoir produire des effets qui sont incontestables afin de délivrer le praticien ou la praticienne du soin de la responsabilité de la présence auprès du patient. Donc, pour le reformuler, le médicament ou l'acte chirurgical doivent à ce point impressionner dans leurs effets qu'ils en viennent à faire accepter le caractère prétendument superflu de la relation au patient. Alors, je pourrais développer, si vous voulez, dans les questions, un cas d'étude. J'ai commencé sans forcément faire une introduction de ce que j'allais dire. Je ne sais pas si c'est bon. Vous me suivez ? N'hésitez pas à me dire. Ah, c'est Ahmed. Très bien.
Bonsoir.
On est en Corse. Il faut agrandir votre cercle pour parler.
Merci, Bonnie.
Mais à un moment, on n'a plus le temps.
Mais on est en même temps.
Il y a un tabouret si tu veux venir ici.
Il y a du tabouret là-bas derrière aussi, peut-être.
Ah oui, il y a peut-être.
Tu viens d'arriver à l'introduction.
Ouais.
T'as pas raté grand-chose.
Trop bien.
Pour résumer.
Oula.
Tu vas y arriver sur le bout d'un repas.
T'as vraiment pas raté.
J'arrive, je suis là.
C'est bon les autres.
Ça me paraît bien.
Je peux reprendre
Oui, je t'en prie.
Du coup, je vais reprendre juste pour Ahmed. Je voulais juste de commencer et je disais que je voulais en introduction parler d'un article paru il y a quelques années d'une personne qui est à la fois philosophe et médecin en pratique hospitalière et qui va qui rappelle la distinction entre ce qui est l'ordre du cure et l'ordre du care, donc les deux termes anglo-saxons. Pour parler, le cure, c'est le traitement technique, l'acte de soin qui va être par exemple, la prescription de médicaments ou alors l'acte chirurgical. À l'inverse, donc un acte technique, à l'inverse du care, qui est plutôt de l'ordre de la prise en de l'accompagnement ou de la présence thérapeutique et soignante.
Ok.
Donc je disais que.
Merci.
Ah, okay. Et du coup, je disais que l'hôpital allait largement favoriser le cure au détriment de cet accompagnement et les patients s'en plaignent assez souvent. Voilà, ça j'avais déjà dit. Oui, et ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est ce que je disais au moment où tu es arrivé, c'est que selon moi, il y avait un certain effet qui était recherché dans les traitements du cure, qui était d'impressionner le patient par la puissance thérapeutique sur le moment d'un produit, donc avec des actes chirurgicaux ou des médicaments qui sont très puissants, de telle sorte aussi à rendre superflu ou à faire apparaître comme superflu prétendument la relation soignante qu'il peut y avoir entre le médecin ou la médecin et son patient. Voilà. Alors, bien entendu, ce que je disais, le patient n'est pas forcément satisfait de son accueil dans la structure hospitalière. Il reçoit gratuitement un traitement, une intervention technique, mais sans être accompagné dans sa souffrance. Et donc, en occultant toute la dimension care du soin, qui est une dimension qui est vraiment recherchée par le patient. Alors moi, je le dis de manière un peu résumée et provocatrice, en disant que puisque nous sommes tous condamnés à mourir, et bien peut-être que le rôle du praticien ou de la praticienne de soins, c'est de nous accompagner dans la mort. Voilà. Donc mettre en avant le care, la relation, même s'il ne faut pas opposer les deux, et même si bien sûr les deux sont doivent être pensés en complémentarité. Alors je crois qu'il y avait dans un de tes livres, tu racontais, peut-être si je lis entre les lignes, l'histoire d'une patiente qui venait, mais surtout pour... presque pour discuter, pour échanger avec toi, et que ça t'arrivait fréquemment, parfois, dans les patients que je pensais à Ria, c'est ça ?
Oui.
Ria, voilà. Et que peut-être des fois, elle venait aussi parce que par besoin, simplement, d'être en communication, pas forcément par besoin d'un traitement spécifique. Voilà. Alors, moi, je souhaitais partir de cet article, d'une part pour positionner ces deux concepts, même si maintenant, on va davantage intéresser au care, forcément, et d'autre part aussi pour montrer que ce qui discrimine ces deux concepts, c'est une certaine relation au temps. Le temps des praticiens et des praticiennes du soin, il exclut, souvent de manière contrainte, la possibilité d'un soin dans la durée, comme partie prenante d'un processus. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais je pense qu'on pourra en parler dans la discussion avec tous les psychologues aussi qui sont là. Souvent, il y a des pressions exercées sur la possibilité d'un suivi thérapeutique, pour des raisons souvent budgétaires, d'effectifs, etc. etc. Et dans ce cas, en fait, les praticiens et praticiennes du soin, ils sont amenés à interagir avec leurs patients que de manière ponctuelle. Et donc le premier temps, le temps du cure, c'est un temps qui est très ponctuel. Ils vont poser un acte, par exemple une ordonnance, une opération chirurgicale, puis après ils vont laisser le patient repartir dans sa vie, le laisser seul face au vécu de sa condition. Alors, on pourrait croire que ce n'est que le fruit d'une conjoncture, politique, économique, et c'est le cas, effectivement. Mais une autre hypothèse que je vous soumets aussi, qui est peut-être complémentaire, c'est aussi le fait de la professionnalisation de la pratique du soin. C'est-à-dire que cette professionnalisation, on pourrait aussi en dresser l'histoire et montrer que c'est l'un des marqueurs d'une modernité aussi qui va dualiser et figer dans des rôles sociaux précis. Ce n'est pas dans ce cadre-là la personne malade qui est accompagnée par la personne qui va bien, mais la personne professionnelle qui accompagne la personne qui n'est pas professionnelle. Voilà. Mmh. Et donc Et donc bon, alors ce premier temps du cure, ce temps qui est très très ponctuel, si on fait un peu l'histoire de la philo, c'est un peu un temps spatialisé comme pourrait être chez Bergson. À l'inverse donc du soin apporté par le care.
Pardon, c'est un temps spatialisé. Explique un petit peu ce que tu veux dire.
Ouais, pas de souci. Moi, je connais pas suffisamment Bergson, mais j'ai un de mes amis qui adore ça. Et en fait, il y a deux. Enfin, Bergson propose deux conceptions, deux visions du temps, disons. Mmh. Il y a le temps spatialisé, c'est-à-dire le temps qui est compris comme arrêté, comme un instantané, tu vois. Ce qui, par exemple, ne fonctionne pas dans la musique, parce que la musique, une note ne se comprend que dans la continuité des notes suivantes, tu vois. Mmh. Une note n'a pas le même effet. Pareil en peinture, on pourrait dire, je pense, en fonction des notes qui sont autour d'elle. Voilà. Et donc Bergson, si je ne dis pas de bêtises, mais on pourra en
parler. Ça me parle, mais j'ai oublié les notions. Ouais.
Donc, et Bergson propose donc de considérer le temps comme une durée, donc comme un processus qui est dans le temps. C'est pas du tout ma spécialité, mais...
Et du coup, est-ce que tu voulais dire ton point par rapport à la médecine ou...
Le cure dans l'hôpital, c'est quelque chose qui est... ponctuel, qui est spatialisé.
Oui, et pas dans la durée. Okay.
Okay. Et aussi, ce que je disais, c'est que ce caractère ponctuel, il est associé aussi avec une chose, c'est qu'il y a une très grande puissance qui doit être apportée par l'acte. Mm-hmm. Tu vois. À l'inverse donc, du temps du care, du temps du prendre soin, qui se construit davantage de manière diffuse et continue, mais qui est aussi beaucoup moins puissante. Mm-hmm. Voilà. Donc, voilà, c'est des effets qui sont compris dans une continuité et un temps long, et aux effets qui sont moins mesurables et objectifiables. Voilà. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si le care doit se construire dans la durée, cette durée n'est pas adaptée à une architecture médicale qui va professionnaliser. Voilà. Donc, alors, je voulais juste faire une petite remarque, mais qui va permettre, je crois, d'exemplifier ça. Souvent, si on le remarque bien, ce qui se joue entre les médecines normales au sens institutionnel et les médecines alternatives, c'est de l'ordre d'un certain rapport au temps thérapeutique et à l'efficacité mesurable d'un traitement. Donc si on prend l'exemple, je ne vais pas rentrer dans les débats ou polémiques, parce que c'est quand même des choses assez polémiques, mais l'homéopathie, la psychanalyse, la question de l'accompagnement des personnes en fin de vie pendant le Covid, ou alors même la lithothérapie, enfin, toutes ces choses-là, on remarque qu'aux yeux de la médecine normale, ces médecines alternatives pêchent souvent, d'une part parce qu'elles n'ont pas une efficacité immédiate, ponctuelle, qui est celle de la drogue, de la pharmacopée traditionnelle, et d'autre part aussi la très grande lenteur des thérapies qui sont proposées. Bon, je tenais de manière assez humoristique, mais que... une psychanalyse parisienne peut durer plusieurs dizaines d'années, voilà. Alors que par exemple le remboursement des séances de psychologue prévues par l'éducation nationale n'est que sur 8 séances. 8 séances, c'est très très court. Mmh. C'est tout maintenant ? C'était 8. Ok, bah mais c'est bien de me voir. Et voilà, donc un temps complètement différent. Voilà. Et donc c'est pour cette raison, et je crois que c'est intéressant aussi de mettre ça dans le cadre de ce l'ethnocafé, que sans nier absolument que la crise du care est liée à une crise institutionnelle, etc., etc., et qu'il faudrait résoudre aussi, le soin dont je parle, le prendre soin, ne peut pas être seulement l'apanage des professionnels du soin, qui sont d'ailleurs présents ce soir, mais il doit être l'affaire aussi de toutes et tous, envers soi-même ou envers les autres, et dans sa vie professionnelle autant que dans sa vie personnelle. Voilà. Alors, moi, je pense, et je ferai une remarque après sur un point que tu as dit et qui me semblait intéressant. Moi, je pense qu'on peut dire que le boulanger peut prendre soin de l'humeur de ses clients le matin quand il leur offre un croissant. Et donc, le boulanger peut être un professionnel du soin. La professeure peut prendre soin de l'avenir de ses élèves et de l'avenir de la société par extension, à la condition peut-être d'introduire le paradigme du soin dans sa visée intentionnelle sur le monde, donc d'avoir... cette envie d'envelopper le monde autour de soi de cette volonté de soin. Voilà. Et évidemment, ce n'est donc pas nécessaire, il pourrait du coup avoir un bon boulanger qui prend soin de ses clients, et un mauvais boulanger qui penserait avant tout à son chiffre d'affaires ou à d'autres considérations. Alors, je voulais vous parler juste d'un personnage qui s'appelle Raguenaud dans Cyrano de Bergerac, qui est vraiment formidable.
Le boulanger,
oui. C'est le boulanger des poètes, et en fait il se fait voler toutes ses pâtisseries par les poètes, mais lui s'en fiche parce qu'il aime bien la poésie, et donc il est content en fait que des gens qui crèvent de faim viennent manger.
De les soutenir.
Oui, c'est ça. Alors, je voudrais quand même préciser une petite confusion qu'on pourrait faire à ce stade. Pour revenir à l'article initial, nous aurions ainsi d'une part le cure qui est l'outil, le geste technique qui soigne, et le care, la parole, accompagnement, relation, présence. Mais il ne faudrait pas dire que le care ne possède pas en lui-même sa propre technicité. Voilà. Et donc la parole soignante efficace possède elle-même une dimension technique afin d'être capable de construire autour de soi un monde qui prend soin. Voilà. Est-ce que pour l'instant ça va ou...
Oui.
Alors moi, donc c'était un peu la première partie que je voulais faire, et dans le temps suivant, j'aimerais vous proposer quelques réflexions qui vont être un peu plus expérimentales pour explorer cette dimension technique du soin au travers d'une redéfinition de la notion de rituel. Je précise explorer parce que vraiment, voilà, ça m'intéressait de pouvoir après en discuter avec vous et tout, et j'ai pas forcément trop de recul sur les propositions que je vais vous faire, mais ça m'intéressait de vous les présenter. Alors, je voudrais commencer cette incursion vers le rituel par la lecture de quelques extraits qui sont issus... Voilà, si vous voulez le faire passer, si vous voulez, ou pas, d'ailleurs. D'un livre de Baptiste Morisot, qui est aussi un peu le sujet de mon mémoire cette année, qui s'appelle « Manière d'être vivant », et plus spécifiquement, d'être vivant,
okay.
Et publié en 2019. Et précisément un des six extraits qui s'appelle « Les promesses d'une éponge » et dans lequel il va introduire cette notion de rituel, un rituel qui est bien sûr revisité, donc redéfini. Voilà. Et donc lui, ce qu'il propose, c'est, mais c'est très lié avec ce que disait Lia, c'est-à-dire que d'introduire en fait dans nos gestes quotidiens, donc là il va parler par exemple de saler l'eau des pâtes, dans ce geste quotidien, y instaurer une notion de reconnaissance et de gratitude, effectuée comme un espèce de rituel invisible. Donc je vais vous dire, il y a deux petits extraits qui sont assez courts. À chaque repas, nous accomplissons un geste d'une portée rituelle majeure. Plongeant trois doigts dans un gros pot de sel pour en jeter une poignée dans une casserole, comme la sorcière jette une substance magique dans la potion. Ou saisissant négligemment la salière pour... comme le moine zen avec son gong, la secouer rythmiquement, trois fois au-dessus de l'assiette, nous salope. C'est le premier extrait. Deuxième, qui le conclut un peu. Je voudrais faire tout autre chose, restituer son sens au rituel de salé. Un rituel sans profondeur métaphysique, avec la simplicité des mystères païens, comme ceux d'Éleusis, qui rappelait simplement le prodige quotidien du grain qui nourrit et de l'eau qui désaltère. À celui qui venait chercher du sens. Un rituel silencieux, tout simple, accompli dans le fort intérieur, sans mysticisme, sans autre mysticisme que celui de la vie même. Voilà pour les deux extraits, il y en a juste après. Alors, plusieurs choses. Morisot, il situe ce rituel comme une opération de gratitude pour ce qui nous a été donné, avec une vision très très large de la gratitude. Pas forcément ce qui nous a été donné avec intention. Le don n'a pas forcément besoin d'être involontaire. Le don n'a pas forcément besoin d'être volontaire, pardon. Ce qui, dans la pensée de Morisot, dans le cadre de son travail, se dirige surtout vers le non-humain. Donc c'est, je ne vais pas vous lire forcément le dernier extrait, mais vers les pollinisateurs, vers les forêts qui nous offrent l'oxygène, etc., etc. Et donc, à partir de ce court extrait de Morisot, on peut dresser une première version de définition de ce rituel revisité comme un ensemble de pratiques qui vont être matérielles, donc des gestes, ça pourrait être la danse par exemple, des gestes, actions, donc ensemble de pratiques matérielles ou discursives, donc ça va être de l'ordre de la poésie, cette fois-ci, du langage, de la parole. Voilà. Et donc cet ensemble de pratiques tendrait à une gratitude consciente d'un moment, sans la nécessité forcément d'une présence mystique mais ni de son exclusion non plus. Voilà. Alors je vais, ce passage-là, je ne voulais pas forcément le dire, mais ça pourrait être intéressant par rapport à une des remarques que tu as faites. C'est que, en fait, le travail de Morisot, Morisot ne parle pas directement de la poétique du soin, mais je voulais inclure ses réflexions dans le cadre de mon mémoire, parce que ça me paraît assez intéressant. Et en fait, lui, il va partir du principe que la crise des sociétés humaines que nous connaissons, la crise du vivant, est le fruit d'une crise de la sensibilité. Et ce qui revient un peu à ce que tu disais, à une crise des relations vivantes et qu'il faudrait réparer. Voilà. Et en premier lieu, c'est mon hypothèse de recherche, mais dans la forme que prend l'écriture de sa recherche. Du coup, il allait produire des formes qui étaient mi-hybrides, mi-roman. Bon, moi, je sais me servir un peu de Roland Barthes à ce moment-là, mais parce que, comme si que la, pour adapter sa forme aux propos qui étaient d'essayer de produire davantage de soins, notamment, et aussi hein, à avoir aussi un, tout simplement de manière prosaïque, aussi avoir un discours qui porte plus sur le grand public, notamment un projet diplomatique. Voilà, c'était pour répondre un petit peu à la question que tu disais. Alors, un monde qui prend soin pourrait ainsi être un monde que l'on charge de rituels, et autrement dit, appartenir à ce monde qui prend soin serait un choix, une manière d'être et d'habiter, je pense que les termes ont été déjà donnés, relevant de la volonté d'un sujet qui choisit de commencer à bâtir ce monde-là. Alors, un des points qu'on pourrait reprendre dans la discussion, c'est justement le caractère construit du monde que l'on habite, monde qui est à la fois phénoménal, symbolique, et possédant une visée, une intentionnalité. Voilà. Ça, c'est forcément important. Alors, voilà. Pour en revenir au rituel, il ne s'agit pas nécessairement d'un rituel de parole ou d'écriture, mais, bien sûr, les rituels de l'ordre du langage peuvent contribuer à bâtir ce monde qui prend soin. Notamment, ce que, justement, une certaine poésie peut proposer une focalisation sur des aspects du quotidien qui sont pris en conscience et qui vont donc être réincorporés dans le monde vécu des personnes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis.
Je veux bien que tu redises. S'il te plaît.
Donc, je disais, oui, voilà. Je disais que dans l'article, voilà, si le cure c'est l'acte technique, il ne faut pas oublier que le care, prendre soin, être dans une relation soignante, demande aussi sa propre technicité. Et donc je voulais expliquer, enfin proposer avec vous de partir sur la technicité du rituel, on pourrait dire, ou voir comment est-ce que le rituel peut contribuer à cette relation dans le soin. Je parlais donc du coup des exemples de Baptiste Morisot. Grâce auquel on peut sortir une définition de, ce rituel qui soit de l'ordre de la reconnaissance consciente d'un moment organisé par des gestes et des paroles. Des gestes et des paroles.
Pardon, Morisot, c'est ce livre. Hein.
Ouais, c'est ça.
Il est philosophe, anthropologue, il est contemporain.
C'est 2019.
Okay.
C'est 2019. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, philosophe, anthropologue...
Oui, c'est voilà. Okay. Mais il est de notre
ouais.
époque.
Mais on peut dire qu'il vient un petit peu, en tout cas dans le champ français, à la suite...
Il est français ?
Oui, okay. À la suite de Bruno Latour et de Philippe Descola.
Ok.
Il faut le dire, okay. situé, on va dire comme ça. Okay. Voilà. Voilà. Et donc le monde. Oui, ce qui me semblait intéressant de dire, c'est que le monde qui prend soin peut être bâti par soi-même grâce à toute une série de, grâce à la mise en place d'une série de rituels relevant d'un choix, relevant d'une organisation aussi ou d'un choix. Voilà. Et bon, après on pourra en revenir. Voilà. Et que évidemment les rituels ne relèvent pas exclusivement des rituels de parole. Mais ça peut l'être aussi. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de ces rituels qui ont cours avec la poésie, par exemple. Voilà. Alors, et justement, il existe une certaine poésie qui propose une focalisation sur le quotidien pour le rendre conscient. C'est-à-dire que le quotidien que l'on ne voit pas habituellement, une certaine poésie propose de le mettre en valeur, et je vais en donner un exemple juste après. Donc il y a deux exemples qui sont assez canoniques. Tout d'abord, tout l'art des poésies brèves japonaises, haïku notamment, mais j'en ai d'autres. Le haïku en fait n'est qu'un seul genre parmi d'autres. Et par exemple, je vous ai amené ici un petit livre qui s'appelle Les récits de la paume de la main de Yasunari Kawabata. Et donc c'est juste des histoires très très brèves qui vont se focaliser sur une petite scénette de une demi-page, voire une page et demie maximum. Voilà donc la poésie brève japonaise, on en reparlera un petit peu après. Et également, je pense qu'on a déjà parlé au Lettre au Café, mais Francis Ponge, bien sûr. Francis Ponge, je vous proposais la lecture d'un petit poème qui s'appelle Les plaisirs de la porte, qui est issu du parti pris des choses. Et le parti pris des choses, justement, c'est le parti pris d'aller vers ces choses qui sont simples, qui sont de l'ordre du quotidien, pour essayer d'en prendre conscience et de voir leur merveilleux. Les rois ne touchent pas aux portes. Ils ne connaissent pas ce bonheur. Pousser devant soi avec douceur ou rudesse l'un de ces grands panneaux familiers. Se retourner vers lui pour le remettre en place. Tenir dans ses bras une porte. Le bonheur d'empoigner au ventre par son nœud de porcelaine l'un de ces hauts obstacles d'une pièce. Ce corps à corps, rapide, par lequel un instant la marche retenue, l'œil s'ouvre et le corps tout entier s'accommode à son nouvel appartement. D'une main amicale, il la tient encore, avant de la repousser décidément et de s'enclore, ce dont le déclic du ressort puissant mais bien huilé l'assure. Exemple assez typique, la porte existe bien, elle est présente chaque jour avec nous, et grâce à ce petit poème, je peux dresser une relation consciente avec elle, une relation rituelle, une relation dont le rite est codifié et permise par la durée que j'accorde à la lecture orale ou muette du poème. Voilà. Et on retourne ici. Oui, je pense que ce qui est important là-dedans, c'est que. Mais j'en reviendrai après, mais. Bon, j'en reviendrai après, voilà.
Non, je peux le dire maintenant.
Mais oui, ok. Mais ce que je trouve important, c'est que ce qui est important, je trouve, aussi dans l'introduction de la poésie dans le soin, c'est l'introduction du temps que l'on prend pour la poésie. Et en fait, le temps que l'on prend pour la poésie, ça peut devenir un temps que l'on prend pour le soin. Mmh. Et on revient à cette opposition, si vous voulez, entre la médecine ponctuelle d'un temps spatialisé et quelque chose qui se construirait de manière plus lente, plus diffuse, mais avec un besoin de mise en place d'une durée. Voilà. Voilà. Et ici, donc, la fonction de ce rituel de lecture est de rappeler au bonheur du familier, au bonheur d'ouvrir une porte, comme je vous en parlais. Bon, là, j'ai quelques haïkus.
C'est quoi, haïku ?
C'est
un poème
court.
Japonais.
3-4 vers, oui.
Ça, c'est spécifique japonais.
Oui.
Ouais,
ok.
Ouais. Après, bon, on a une réception du haïku en France qui est compliquée, mais.
Oui, j'avoue que. Enfin, je comprends pas toujours. Okay. Parce que oui, ça décrit souvent des scènes. Ou...
Un instant, quoi.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais alors, j'y reviendrai, mais ça, c'est intéressant. C'est toi qui disais que tu fais de la poésie, tu vois.
Mais
en secret.
Mais j'y reviendrai un moment. Mais il y a un truc très intéressant dans le haïku, c'est qu'en fait une des étymologies du mot haïku, en fait, est de l'ordre du grotesque, ce qui est de l'ordre de qui n'est pas très important, dont on peut rire, qui est et donc en fait, on a en France une réception du haïku qui est extrêmement sérieuse, extrêmement presque mélancolique, etc. Mmh. Alors que dans le mot même de haïku, il y a quelque chose un peu de allez, on fait ça vite. Avec, voilà, la question de l'impermanence japonaise se retrouve aussi dans la considération qu'ils ont pour ces formes. Après, voilà. Notamment, je crois qu'il y a un poète de haïku qui s'appelle Kobayashi Issa, qui a pu écrire 25 000 haïkus dans une journée. Donc on se doute bien que la qualité n'est pas forcément...
Ok. C'est intéressant.
Alors, maintenant, je proposais de revenir à nouveau sur les haïkus, et plus précisément sur une conférence de Roland Barthes, qui s'appelle « Le désir de haïku », qui a été faite au Collège de France, qui est vraiment très intéressante, des années 80. Et alors, Barthes, il part du constat, et c'est encore, ça va encore te répondre, que il existe dans la production contemporaine japonaise, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais en tout cas c'est ce que lui propose, que la majorité des amateurs de haïku sont aussi des personnes qui vont écrire elles-mêmes des haïkus. Et donc il y a une communication entre les personnes qui consomment et les personnes qui produisent. Voilà, donc j'ai une petite citation qui redit la même chose. Voilà. Tout au long du 19e siècle, et jusqu'au... Donc il parle de la France là, mais par opposition donc à ce Japon-là. Tout au long du 19e siècle, et jusqu'au Parnasse et aux symbolistes, les individus qui lisaient de la poésie classique étaient tout à fait capables d'en faire. Ils en faisaient de la mauvaise peut-être, mais ils en faisaient. Voilà. Et la question de la production, je ne sais pas si vous avez déjà posé au Lépo Café sur les méditations poétiques, etc. Parce que souvent, donc, dans le format qui est organisé, c'est un format uniquement de réception de la part des auditeurs et auditrices. Mais de se penser, du coup, cette fois-ci, non plus comme consommateur, mais bien producteur de ces rites ou rituels, et par extension producteur de productrice de poésie, elle me semble particulièrement intéressante. Moi, j'avais relevé une phrase dans l'Insurrection poétique, je crois que c'était de Jean-Michel. Il parlait justement de cette création comme d'une prière, une prière avec des pouvoirs d'ordre psychique, comme des rituels, justement, faire tomber la pluie, faire tomber la neige. Et donc, peut-être aussi que le fait de d'écrire, c'est rentrer aussi dans une forme de création soi-même d'un rituel, un appel, mystique ou non, mais un appel à une conscience, voilà, par exemple. Et donc, qu'importe, je crois que c'est important, qu'importe la qualité de la création, tant que celle-ci relève d'un besoin qui n'est pas superficiel. Voilà. Alors, on arrive un peu dans la dernière partie de cette présentation, et j'ai essayé de montrer... pour résumer un peu ce que j'essaie de faire, j'ai d'abord essayé de montrer l'importance du processus et de la continuité dans la prise en soin. Prendre soin ne peut pas être seulement l'apanage des professionnels du soin, mais pourrait constituer une visée intentionnelle capable de régénérer notre monde vécu. Et j'ai rappelé qu'il y avait une technicité dans cette prise de soin, et j'essaie d'introduire, mais j'aimerais bien qu'on en discute, ça va être assez intéressant je pense, cette notion de rituel comme un ensemble de pratiques qui permettent de célébrer une reconnaissance consciente envers ce qui nous lie. Voilà. J'ai aussi évoqué comment une certaine poésie du quotidien pouvait favoriser cette mise en rituel. Voilà. Je pense que l'évocation du Japon, ça peut être une piste aussi d'exploration pour les discussions ou même postérieures, elle est selon moi pas anecdotique. Morizo, lorsqu'il fonde la pratique rituelle dont vous avez lu les extraits, il se réfère au culte des ancêtres asiatiques, il ne donne pas plus de détails, mais je pense qu'il y a au Japon, une forte propension à la création de rituels, avec aussi une idée que je trouve assez intéressante, qui est celle que, et dont on parlait sur le boulanger comme praticien du soin, mais il y a cette idée aussi que, par exemple, la voie du thé, donc la voie de la cérémonie du thé, qui est elle-même un des rituels les plus intéressants, pourrait être équivalente à la voie du sabre, la voie donc du samouraï. Donc on pourrait se dire deux choses complètement différentes. Et dans la philosophie, par exemple, du Kung Fu, il y a la même idée aussi, à savoir un boulanger peut tout à fait être maître du Kung Fu, c'est une vraie citation d'un des maîtres... parce que, justement, ce Kung Fu, c'est une recherche de perfection du geste, une recherche d'excellence, une recherche, on pourrait dire, je pense, de prendre soin par ce geste, par cet perfectionnement du geste.
Voilà. Tu fais une comparaison entre un samouraï et un boulanger
C'est pas moi du tout. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement commun et courant en Asie. Je prends l'exemple du Japon.
Par l'artisanat, les artisans, c'est ça?
C'est plutôt culturellement et mentalement,
culturellement,
tu vois. Par exemple, là, je lisais... Dis-moi.
Le fait de faire quelque chose avec le savoir-faire, le savoir-faire. En fait.
Le tai chi, tout ça, c'est vraiment une philosophie du mouvement aussi. Je trouve ça assez beau à regarder. Moi, je sais que je ne pourrais pas faire ça parce que... bref. Et je trouve ça assez beau, la concentration qu'ils mettent dans chaque mouvement qu'ils font. et du coup, en fait, est-ce que tu parlais de ça
en égal le savoir-faire, en
fait. Ils mettent complètement en équivalence la poursuite d'une espèce de perfection inatteignable, mais qui est pour moi assez comparable à cette perfection recherchée, notamment ici, au travers de, du soin poétique. Voilà, mais on pourra en reparler si vous voulez.
Oui.
Alors, je voudrais un peu pour. Donc, ça allait beaucoup plus vite que prévu, parce que comme il y avait trop d'interruptions, je ne sais pas trop à quelle vitesse j'aille, mais en fait, j'avais plus de temps que. Je vais aller plus lentement. Mais je voulais, un peu en conclusion de cette présentation et pour ouvrir la discussion, vous justifier de pourquoi je voulais mettre en relation rituel et langage. Donc, jusqu'à présent, j'ai plutôt parlé des rituels de langage, donc les rituels de langage. Mais cette fois-ci, je voudrais dresser un peu une analogie qui me semble assez intéressante entre rituel et langage.
Pardon, tu dis que tu as parlé des rituels et de langage.
Oui. Des rituels qui passaient par le langage.
Via la médecine, tout ça ?
Non.
J'ai pas vu le langage dans ce dont tu as.
Oui, j'entends, mais.
C'est la poésie.
Oui, mais en fait, ce que j'essaye. Alors attends, je vais te reprendre.
Ouais.
Oui, ce que je veux dire, c'est le rituel. Enfin. Le rituel peut être une manière d'incorporer ce soin dans son monde et reconstituer son monde, tu vois.
Ouais.
Et que ce rituel pouvait être fait par des pratiques ou alors par des discours.
Okay.
Et dans les discours, il y avait cette question de la parole ou de l'écriture.
Okay.
Et j'ai parlé de deux choses. Et bref, que je pense qu'il y avait un intérêt assez important à ne pas négliger la partie production soi-même. Ne pas seulement être dans la réception de la poésie, mais aussi d'être dans sa production.
Oui.
Donc, ça, c'est pas ce que je disais. La deuxième chose que je disais, c'est que voilà, il y avait quelque chose d'intéressant dans cet objectif visé du rituel de prendre conscience, de la prise de conscience et de la gratitude dans les poésies qui sont de l'ordre, les poésies du quotidien,
comme par
exemple Francis Ponge et Derrick Roux.
Quelque chose un peu plus léger.
C'est ça. Okay. Mais en fait, voilà, si j'ai voulu. Parler de cette question du rituel et du langage, c'est justement pour ça, c'est parce que, non, c'est justement pour autre chose, c'est parce que on peut faire une véritable analogie entre ce qui est rituel et ce qui est langage. Ça devient un peu plus technique et théorique, mais je peux répéter aussi longtemps. Rituel et langage, ils sont tous les deux des objets de représentation. C'est-à-dire que dans le cas du langage, on va. Évoquer, dans le cas du rituel, on va invoquer ce qui est absent ou distant. Et donc, langage et rituel n'existent tous les deux que dans une distanciation avec ce qui est directement vécu. Dans le cas du rituel religieux, la cérémonie, elle va se vécue autour d'un simulacre. Simulacre, c'est un mot assez important, qui est un objet chargé d'une puissance plutôt symbolique qui représente un magique, mais ce magique qui est lui-même absent. Voilà. Mais pour autant, cet objet n'est pas magique en lui-même. Donc, peut-être répéter. Oui, je disais que ça m'intéressait de faire l'analogie entre ce qui est l'ordre du langage et du rituel, parce que tous deux sont dans la représentation. Ils vont parler de quelque chose qui est absent. Ils vont parler de quelque chose avec lequel on a une distance. Dans le cadre du rituel, on a un simulacre, donc par exemple ça peut être le Christ en croix, mais ça peut être aussi des reliques, ça peut aussi être donc dans Salambo il y a une relique magique, donc c'est un livre de Flaubert, il y a une relique magique qui s'appelle Zinf qui est volée par les barbares qui veulent détruire la ville, et donc cette relique souvent elle est cachée, elle n'est pas magique en soi, mais elle est censée être la matérialisation d'un magique mais qui est toujours absent. Et donc voilà, dans le cadre du langage, comme dans le cadre du rituel, on est sur des objets de représentation qui vont se construire dans une distanciation avec ce dont il parle ou ce à quoi il se réfère. Voilà. Et de là proviennent deux problématiques qui sont intéressantes et que je souhaiterais questionner peut-être dans le cadre des discussions. Premièrement, et je vais reprendre les mots que vous employez dans les petits fascicules sur les méditations poétiques, mais comment rechercher par le langage une attention stable vers ce qui est présent alors même que la chose à laquelle on se réfère est, est inévitablement absente et que le vécu immédiat voilà, est éloigné par une représentation vers, alors Baudrillard pourrait parler de hyper-réalité par exemple, vers un spectaculaire, vers quelque chose, voilà.
Voilà. Est-ce que tu peux répéter ?
Bien sûr. Dans le cadre du l'ethnocafé, il y a des méditations poétiques qui sont organisées.
Okay.
Et l'objectif, c'est de produire une attention stable vers ce qui est présent. Une attention dont on a parlé aussi pour le cadre du rituel, ou dans le cas des poésies de Francis Ponge, parler du quotidien des choses.
Okay.
Mais voilà, le paradoxe, c'est, si tu veux, c'est que on veut évoquer cette conscience, ou cette, on veut essayer de se rapprocher de certaines choses en utilisant des objets de représentation qui vont nécessairement l'en éloigner. Mmh. Je ne sais pas si tu comprends ou tu, je répète.
On essaie d'en créer quelque chose sur des choses qui sont mouvantes.
Non, si tu veux, en fait, il faut vraiment, c'est important de distinguer ce qui relève des mots et ce qui relève des choses.
Mm-hmm.
Les mots sont utilisés pour représenter les choses,
mm-hmm.
mais les mots n'ont absolument pas, il y a une distance qui existe entre les deux, et surtout les mots n'ont pas la puissance des choses. Par un exemple tout bête, si je dis lion, je ne peux pas invoquer un lion, tu vois. Et justement, la parole magique, mais qui est magique, qui n'existe pas, celle qui pourrait invoquer... c'est bon, bon pas mal. Je t'ai vu pareil.
Non, non, je te suivais, ouais.
Mais c'est-à-dire que le langage est forcément un outil de représentation.
Oui.
Et donc de distance.
Ok.
Est-ce que quand tu parles des choses, tu parles d'une action ou...
Non. Par exemple, il y a ça, la chose, et il y a le livre. Mais en disant le livre, si tu veux... je vais référer cette chose-là à un objet qui n'est pas la chose en elle-même. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais utiliser le mot comme intermédiaire entre la chose et moi. Mmh. Et ce faisant, je vais aussi créer une distance entre cette chose et moi. Parce que je vais y mettre un filtre qui est le mot.
Tu Donc tu penses que le langage parfois filtre les intentions ou les choses ?
Exactement.
Okay.
Exactement.
Okay.
Mais avec un paradoxe, c'est que...
En gros, c'est que ça devient une représentation plutôt qu'il y a quelque chose de concret.
Tu parles de la symbolique et de la chose quand je...
Oui, oui, tout à fait. Okay, c'est vraiment... Mais c'est quelque chose qui est vraiment constitutif du langage et dont on ne peut pas s'extraire. Et donc, voilà,
le langage ne peut pas être un livre, concrètement. Enfin, l'objet.
Oui, voilà, c'est ça. Le mot livre ne peut pas être la chose livre.
Quand tu penses lion, tu n'as pas un lion dans la tête.
Exactement.
C'est ça l'idée.
Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, avec...
Moi, je pense à la vie.
Avec ce paradoxe qu'on pourrait un peu questionner dans la discussion, c'est que on va essayer au travers, ma proposition c'est des rituels, la proposition de la poésie, donc la parole, la proposition de, d'un certain objet de représentation, d'atteindre la présence de la chose. Et donc il y a aussi un peu un paradoxe là, je ne sais pas si vous, j'ai réussi à vous faire comprendre. Je peux le répéter.
Vas-y, continue, répète.
Je sais que c'est un peu technique, désolé. Mais... le paradoxe, c'est que on veut au travers des rituels ou de la poésie, par exemple, parler. On veut, grâce à la poésie ou les rituels, atteindre quelque chose qui est présent, une certaine conscience des choses présentes,
oui.
Conscience de la porte, etc.
Oui,
il
y a bon,
c'est ça.
Les...
Mais on veut
c'est
atteindre
quoi,
cette présence.
Poèmes japonais qui
ont haïku. Haïku.
Il y a les haïkus.
Avec quelque chose qui crée une distance, le langage. Et donc il y a un paradoxe. Et un autre paradoxe, c'est que à la fois nommer la chose, lui donner un mot, c'est
la limite.
Bien sûr, mais en même temps, ça offre aussi une fenêtre de concentration vers cette chose-là, parce que Ponge nomme la porte. La porte existe à nos yeux, donc il y a une fenêtre de concentration vers cette chose-là. Et en même temps, nommer, donc c'est le paradoxe, ça éloigne irrémédiablement la chose, la porte, vers une représentation de la chose et non plus la chose en elle-même.
Ouais.
Voilà. Donc ça, c'était le premier point pour éventuellement la discussion. Voilà. Alors le deuxième point qui est assez intéressant. Et si aussi j'ai fait cette analogie entre langage et rituel, parce que je trouve que le rituel permet bien de l'expliquer, c'est que le rituel, il peut être performatif, il peut être efficace, on va dire, que lorsqu'il y a une phase de voilement ou de masque qui l'entoure. Par exemple, dans le cadre de Salammbô, le livre de Flaubert dont je vous parlais tout à l'heure, c'est déjà un sacrilège que de pouvoir voir c'est un manteau qui est sacré, qui appartient à une divinité. Et en fait, voir, c'est, d'une certaine manière, c'est profaner et c'est retirer la puissance à la portée du rituel. Et je pense que c'est pareil dans le langage. Si on essaye de dévoiler directement, sans pudeur, une intention, si on essaye de dévoiler directement par le langage, sans aucune pudeur, une intention, on lui retire sa puissance, qu'elle souhaitait porter. Voilà. Je sais pas si oui, je redis.
Oui, ça. Je viens.
Est-ce que tu peux illustrer par un exemple, peut-être,
ouais.
Qu'on puisse se représenter.
Ouais, bien sûr. Je pense que si je vais vers toi et si je te dis par exemple, je veux t'aider, donc je te propose une intention, je veux t'aider. Mais est-ce que ce faisant, peut-être que toi tu vas me dire ah bah non merci, parce que tu vas peut-être être gêné en fait, parce que le fait que j'ai dévoilé directement l'objet, ceci sans passer par tout un processus, tout passer par ce truc, et bien en fait peut-être que tu vas être moins encline à accepter mon aide. Et du coup peut-être que en allant dans cette espèce de profanation, en donnant exactement l'objet, exactement, peut-être que je vais retirer aussi la puissance que cette chose se réalise concrètement. Alors peut-être que je peux te dire, je peux commencer par te dire comment tu vas. Après, je peux te dire, ah, tu déménages, est-ce que tu veux un coup de main? Enfin, je ne sais pas, tu vois. Parce que je crois qu'il y a des gens qui déménagent ici. tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, et ça se montre.
Et ça, par rapport à ce que tu disais, c'est juste reconnecte à ce que tu disais?
Bien sûr. Moi, ça m'intéressait d'ancrer le rituel dans cette présentation. Parce que je trouve qu'il y a une analogie qui est assez intéressante à faire entre rituel et langage.
Okay.
Le premier point dont j'ai parlé, objet de représentation, oui. Pour parler de quelque chose, oui. Qui est censé être présent, oui. Pour parler d'une présence.
Oui.
Et deuxièmement, oui. Eh bien ceci, c'est-à-dire que...
L'intention.
Oui, c'est-à-dire que le rituel, il permet... Le rituel n'est possible qu'avec un masque, un certain voilement. Et si tu vas aller directement dans la profanation si on poursuit la métaphore du rituel, si tu vas dans la profanation du lieu sacré, de la relique, etc., ce lieu, il perd tout à fait son pouvoir. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Et le rituel permet aussi de mettre présent quelque chose qui est absent.
D'être... attends, excuse-moi.
J'imagine un rituel...
Oui.
Où on, peut sacré. On se réunit ensemble autour de quelque chose qui est absent, mais mettre présent l'effet un peu peut-être... divin ou des choses comme ça.
Bien sûr, mais
spirituel. D'ailleurs, j'ai l'impression de comprendre qu'en fait, c'est que ça ajoute du symbolique et justement, dès qu'on casse ce symbolique-là, ça casse cette distance qui crée justement, entre guillemets, un effet de conscience autour de ça.
Oula, non, j'ai pas suivi.
Redis. Ouais, vas-y, tu parles mieux.
Non, mais c'était.
Non,
mais j'ai pas compris. Ça avait l'air pas mal, mais j'ai pas suivi.
Imaginons que cette lampe-là est un objet rituel.
Oui.
Ok. Wow. Cette lampe, le rituel fait que tu n'as pas le droit de la toucher.
Oui.
Il y a un masque entre cette chose et toi.
Ouais.
Voilà, tout à fait. Si je vais dans quelque chose de... Je vais...
Profanation.
Une profanation. Profanation, c'est bien entendu du profane. Profane, c'est celui qui n'est pas sacré. C'est
ouais. Opposé.
Si je vais toucher et démonter cette relique sacrée, en fait, on va se rendre compte que cette relique-là n'était pas magique. Elle représentait quelque chose de magique, mais elle n'était pas magique en elle-même.
Okay.
Et donc, en fait,
symbolique.
Le rituel va être détruit et annihilé par le fait que...
Et ça, c'est par rapport à la croyance.
Ouais.
Oui, mais il y a peut-être pareil dans le langage, et c'est l'analogie que je voulais porter.
Et bah, est-ce que tu peux du coup faire le lien du coup?
Alors, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que si tu arrives devant une personne que tu connais avec.
Cette intention.
Avec l'intention de l'aider, imaginons, si tu vas directement vers elle en disant je veux t'aider, peut-être que ce sera moins efficace que si tu vas mettre en place.
Peut-être se fermer une.
Exactement, des choses plus diffuses.
Une relation sociale.
C'est ça. Et finalement,
aussi désespéré.
Tu casses les normes. Devenir ami d'abord.
Oui, mais j'avoue que moi, si on m'aborde, je veux t'aider comme ça.
Voilà.
Comme ça. Pourquoi
ouais.
J'ai l'air.
Ok.
Tu te fermes.
Oui, bah oui.
Et donc là, c'est la relation du langage avec ton intention et la conclusion, c'est quoi?
Ah non, c'était...
C'est genre la symbolique n'est pas la même.
Oui. Ah oui, ok. Ok. Les différences de symboliques.
Dans une première partie, ce que j'ai voulu montrer, c'était comment il pouvait y avoir des rituels de langage pour prendre soin. Mais en fait, je voulais justifier mon introduction du terme de rituel parce que ce qui m'intéressait de discuter avec vous et de, sur lequel réfléchir, c'est l'analogie qui était possible entre rituel et langage. Il y a des choses qui sont communes. Voilà.
Bien sûr.
Et voilà.
Et le cure and care du début,
c'était pour, justement pour montrer... Bah, si, regarde. Le cure, c'est une profanation. Si tu as un cancer, on va t'ouvrir, on va saisir la lampe, on va la retirer et on va te refermer.
Tu c'est technique.
Non, mais c'est direct. Ce n'est pas c'est... dans... Tu vois,
c'est, oui, c'est ça, mais c'est la technicité dont tu parlais du début.
Oui, c'est ça.
Le cure, c'est on, te... on a la technique, on a les connaissances, on te fait ceci.
De... Et c'est et sur le... un temps donné, quoi.
Exactement. Et surtout, c'est...
comme un traitement.
Exactement. Ou... Et c'est sans aucun respect, finalement, pour ta peau. Le chirurgien ne va pas se mettre...
Okay.
Le chirurgien
bah,
va
oui,
pas
oui,
se
oui, oui, bah...
Parce qu'il a fait des études pour, il est censé respecter...
Oui, mais encore, on ne sait pas ce qui se passe dans les,
oui.
les salles de chirurgie.
C'est vrai qu'il oui, y a eu des
profanations, oui. d'ailleurs.
Souvent, ouais. sur la question de la conscience de, du corps, ça, enfin, souvent, ça peut être très... C'est, non, un, c'est le corps devient un objet d'étude.
Mais tellement.
Il y a que d'être... Toi, tu m'expliquais que tu t'es fait opérer... Et que. Non, c'est peut-être pas toi.
Oui, c'est...
La cicatrice, elle était différente
oui.
que par rapport à celle que tu as oui. eue, alors que c'était à peu près la même.
C'était la même blessure.
La même blessure.
Ouais. Et je voulais rebondir. C'est le moment où on discute, là.
Franchement, on peut commencer la discussion si vous voulez, sauf si vous avez d'autres questions.
Mais du coup, là, moi, je que,
et
du
ben, coup, je voulais rebondir sur. À un moment donné, tu as parlé de. Donc, au tout début, tu as dit cure and care, les termes anglo-saxons, et donc que la cure, si je t'ai suivi, c'était ce moment où le médecin peut être. Voilà, montrer peut-être soigner, sa puissance, soigner, sa connaissance, et on est là pour. Il y a un problème, une solution, on vous la donne. Et que peut-être les hôpitaux étaient devenus plus dans le cure que dans le care. On discute moins avec les patients. Et à un moment donné, tu as dit dans la médecine normale.
Oui.
Et je me dis, nous, notre médecine normale, c'est notre médecine occidentale. Et après, tu as parlé de toutes ces médecines qu'on appelle quoi
alternatives.
Alors qu'ils sont en fait peut-être les médecines normales en Chine ou au Vietnam, en Thaïlande, et qui sont des médecines peut-être qui durent aussi peut-être plus longtemps dans le temps. En fait, tu les as mis en opposition et je me dis peut-être que ça, on le voit un peu de notre œil. Occidental, on a une médecine voilà, très...
C'est vrai que la médecine chinoise est très différente.
Voilà. Et du coup, peut-être plus en longueur, comme il parlait du temps.
Oui, la médecine chinoise, des gens vont...
Je connais rien en médecine chinoise, orientale, mais je sais qu'on a un système très basé sur notre côté occidental, tout ça, et que peut-être dans les médecines alternatives dont tu parles, effectivement, le temps est autre.
Enfin, en tout cas,
c'est moins ponctuel.
La proposition que je faisais, même, c'est justement c'est des questions après qui peuvent être aussi assez polémiques, etc. Mais c'est que souvent, ce qu'on va. Déjà, première chose, c'est que je dis le mot normal comme une norme. C'est vraiment.
Ouais,
c'est
normal, notre norme. C'est
notre norme.
Notre norme, oui, oui.
Ce
n'est
pas mieux ou quoi que ce soit.
Dans ce qu'on voit, nous, tous les jours. Oui, ok.
Mais voilà, donc, dans ce que reproche la médecine normale, c'est la médecine alternative,
oui.
souvent, ça peut se référer à cette distinction de durée dont je parlais.
Oui.
C'est-à-dire,
oui, oui.
L'homéopathie, c'était pas efficace dans l'instant, oui. c'est pas comme...
Ou encore, on voit même maintenant les magnétiseurs qui soignent des choses chez des personnes qui sont allées voir 1000 fois un médecin et ils vont voir un magnétiseur qui... La médecine occidentale ne comprend pas ça et on va te soigner un épaule qui fait mal ou le brûlure, ceux qui passent le feu,
bah comme ça. Il y a parfois c'est psychosomatique.
Aussi, peut-être.
Oui, parce que moi, enfin, je peux pas parler de moi.
Si, mais
vas-y. Je parle de moi, mais de personne aussi. Enfin, moi, je sais que genre de médecine, ça marchera pas sur moi.
Quel genre de médecine
Bah, toutes les médecines alternatives, ouais.
Ça marche pas.
Une certaine... je suis un peu bloquée.
Ouais.
Donc, j'ai du mal à m'ouvrir.
Okay.
Donc, j'ai déjà essayé une fois d'aller voir quelqu'un qui faisait de...
Homéopathie
de... Non, mais... C'était... je me rappelle plus du nom. Mais c'était une sorte de thérapie.
Oui, ok.
J'étais allongée, je pouvais me masser. choses comme ça.
Ça va marcher.
Non.
Ok.
Mais pendant qu'elle le faisait, moi j'étais.
Niette.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est fait? Enfin, okay. J'étais même un peu sarcastique dans ma tête. Enfin,
oui, genre, oui, genre c'est une blague. Quoi.
Oui, un peu.
Alors que pour d'autres,
mais après, ça va marcher. Mais après, autant il y a des moments où j'étais. Enfin, elle touchait sur des sujets. Qui me touchaient.
Donc elle te parlait en même temps?
Oui, mais après, bon, c'était pas une psychologue. J'avais vraiment... pas la formation pour m'aider.
Moi, ok, c'est problèmes. Comme ça que tu l'as vu, toi. Tu
après, oui, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de... Enfin, c'est... Bah, qui vont vers ce genre de personnes.
Mais c'est pas juste... Des fois, ça marche,
hein. Oui, bah, moi, ça
marche. Peut-être que ça dépend de ce qu'on soigne aussi.
Oui, c'est ça.
On généralise le soin. Oui. Et aussi de ce qui fait objet de soin.
Oui. Ouais. Que là, par exemple, ne serait-ce que là, par exemple, dans cet exemple-là, il y a la question du symbolique aussi sur du coup qu'est-ce que ça représente un titre professionnel et comment ça nous met en confiance aussi sur la question du soin, on se laisse soigner aussi. Parce que nous, en psycho, c'est aussi beaucoup ce qu'on rencontre, typiquement avec les injonctions hein, dont on parlait. C'est en fait, peu importe les compétences aussi du professionnel, là où la personne, on va dire, se laisse accompagner au soin ou en fait, entre guillemets, s'approprie quelque chose du cadre, ou alors est complètement dans le rejet ou la fuite de ce cadre-là et ne souhaite pas du tout l'intégrer et ne l'intégrera pas.
Ouais.
Après,
peu importe la compétence.
C'est compliqué quand tu fais un suivi thérapeutique, de trouver la personne qui te convient.
Oui, aussi.
Et parce que on est. Enfin, moi, c'était vraiment. Au début, je me disais, mais pourquoi j'irai consulter c'est des humains comme moi en quoi. Enfin, ils ont leurs failles aussi, et pourquoi je devrais leur faire confiance? Mais, je me suis un peu débloquée par rapport à ça, parce que je me suis dit, bon, quand même. Enfin, je sais que je pourrais pas m'en sortir toute seule, là. Dès que je fasse confiance un petit peu...
À d'autres.
Ouais, c'est ça.
Ok. Qui ont les connaissances, un peu.
Exactement. Ouais, mais je pense qu'il y a ce truc de... Il y a un côté un peu... Enfin, je voulais parler de cure et de care. Et justement, le côté cure, c'est que y a une temporalité et que le patient, faut le traiter. En France, les hôpitaux, ils sont surchargés. Mmh. Il faut vite qu'ils sortent, comme ça, il y en a deux qui rentrent. Même les urgences, moi j'étais aux urgences une fois. Et après, mon gars, il était moins grave, mais oui, c'est
l'usine.
Super longtemps.
C'est l'usine.
Et puis, du coup, ils hiérarchisent
les besoins.
Oui, c'est ça. Alors que peut-être que potentiellement, il y a un truc derrière et que.
Ouais.
Mais c'est beaucoup plus grave. Ouais. Quoi. Et du coup, le care, il est plus. Enfin, parce que si on est dans l'urgence, du coup, il n'y a pas de.
De care.
Il y a moins de care, ouais.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, c'est tout à fait le cas. Mais en même temps, parce que on ne peut pas avoir tout le temps un praticien ou une praticienne de soins avec soi.
Oui, c'est ça.
Et le prendre soin ne peut pas s'arrêter au moment où tu es en consultation.
Il n'y a plus de suivi.
C'est ça. Tu dois aussi prendre soin de toi, même quand tu n'es pas en consultation.
Oui, oui. Ou après, c'est à toi de prendre soin de toi, mais c'est compliqué.
En tout cas, j'ai bien aimé ta notion de prendre soin justement en dehors de l'espace professionnel.
Oui, oui. Mais ça,
tu vois,
ça veut dire... Oui, oui, avec...
On a fait un petit bouquin qui s'appelle Bribes de soins, avec l'Université Lyon 2. Et c'était des étudiants qui étaient en licence de sociaux. Et donc, en fait, c'était ce livre, il a été fait par tous les auteurs qui sont sur la couverture, il était une soixantaine. Donc, c'était un exercice, et en fait, ils devaient, leur prof leur a demandé, donc en collaboration avec nous, de décrire une scène de prendre soin dans l'espace public. Et j'ai trouvé ça super intéressant, cet exercice-là. Alors, c'était très intéressant de le lire aussi. Puis c'était des jeunes de 20 ans, tu vois. Du coup, je dis 20 ans parce que c'était une grande différence d'âge par rapport à moi. Et du coup, ça montrait aussi ce que c'était que cette génération, qui n'est pas la mienne. Et je trouve qu'il y a une sorte de... Il y a une sorte de défaut culturel de cette intention-là de prendre soin. Je trouve que tous les lieux publics aujourd'hui sont des lieux où on est malmené. Tu vois, je pense à l'école. L'école, le collège, le lycée, c'est dingue de voir comment les profs parlent aux élèves. Moi, je me raconte, mais vous allez voir le prof, tu fais quoi là? Comme ça.
C'est quelque chose qui se pratique aussi de prendre soin des gens.
En fait, c'est juste ce qu'on dit.
Enfin, je pense que les professeurs, de base, ils étaient censés déjà bah, prendre soin des élèves en leur impliquant des... Enfin, pas forcément... Enfin, pour moi, un prof, il est censé vous impliquer des valeurs. Mmh. Valeurs laïques, plutôt laïques, pas forcément...
En fait, pour moi, c'est la notion de bienveillance.
C'est ça, oui.
Prendre soin, c'est
il y a le programme, mais aussi...
Tu peux être bienveillant partout dans ta vie. Partout. Quand tu marches dans la rue, tu es bienveillant.
Un bon humain.
Il y a quelqu'un qui marche en face de toi, tu es bienveillant. C'est ça, pour moi, c'est une notion de... Quand
tu
as parlé de prendre soin, je me suis dit, c'est être bienveillant. Et tu peux être bienveillant avec toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie.
Oui, je crois que c'est justement dans l'artiste qui fait la gueule.
Je pense que l'école a toujours été un
peu... Il y a plus de
gens.
C'est extraordinaire.
En politique, tu vois, l'Assemblée nationale, tu as l'impression qu'il y a eu un changement en 50 ans.
Il faut pas penser qu'on va faire une bonne action.
Il y avait des gens qui savaient parler. Alors que maintenant, c'est que de la maltraitance. Quoi.
J'ai prêté à Serena un livre qui s'appelle Rome, de Blaise Sandra, qui est très chouette. Et en fait, on est en 1920 et c'est exactement le même débat qu'aujourd'hui.
Il y a une façon de parler qui est respectueuse.
Mais il y a plutôt le soin de
Parce que je n'ai pas de bâton de parole, mais on essaie d'en avoir un imaginaire.
Ce que je voulais dire par rapport à, pour rebondir à ce que disait Jean, ce dont j'ai eu l'impression en lisant La chair du monde, notamment.
C'est quoi La chair du monde ?
C'est le livre qui est écrit par Jean.
Jean, c'est.
C'est moi.
C'est Jean. Jean.
Faïa.
Tu peux le.
C'est ouais, lequel, attends, c'est... Je l'ai alors, attendez, hop, puis. Hop, on peut les prêter.
Allez.
C'est. Peut-être que tu avais appris, j'ai l'impression, dans certaines relations avec tes patients, que parfois tu pouvais recevoir du soin de la part de tes patients. Mmh. Et parfois, peut-être que c'était parce que c'était un mauvais jour ou quoi, et parfois c'est la personne qui est de l'autre côté du bureau qui doit aussi prendre soin de toi, et cette relation ne pouvait pas être que unidirectionnelle. En tout cas, c'est ce que j'ai vraiment ressenti en lisant ce livre-là. Je ne sais pas si tu me confirmes.
Bah nous, on travaille beaucoup, en tout cas moi, mais je pense que bien, on se questionne beaucoup là-dessus, sur la réciprocité dans le soin. C'est-à-dire qu'à un moment, la relation thérapeutique, c'est une relation et que... Et que d'autant plus quand la personne en face de nous, enfin moi je suis très habité par cette idée qu'elle est fondamentalement mystérieuse. Mmh. Et du coup, comment relationner avec quelqu'un qu'on ne peut pas lire comme on lit le marc de café. À un moment, il faut miser les choses sur la relation. Et la relation, c'est un dialogue, c'est un échange, c'est une réciprocité. Mmh. Et moi, ça m'arrive, alors pas souvent, mais ça m'arrive. De me permettre de dire à mes patients, mais en fait, prenez soin de moi. Mmh. Notamment quand ils viennent toujours en retard, quand. Et en fait, à un moment, moi, je peux pas, en fait. Et donc, le patient qui me met en pression, qui me met mal. De toute façon, la relation est fou. Parce que moi, je suis énervé, on peut plus rien faire. Bon, alors après, cela étant, le thérapeute reste au service du patient.
Bien sûr.
Ça, c'est.
C'est aussi respecté.
C'est dans le contrat. Le patient ne vient pas là pour prendre soin de son médecin.
Mais il y a un rapport de respect.
Et il y a un rapport d'échange, et puis en fait, quand on soigne bien quelqu'un, ça fait du bien aussi. Des fois, on sent que...
Là, et comment tu l'as ressenti, ce qui parlait de cure and care, toi, en tant que médecin traitant, tu le ressens? Ou même vous, les filles qui êtes psychologues, qui êtes aussi dans le soin, ça se ressent énormément aujourd'hui?
Il y a des histoires d'espace, je pense pas que les choses sont complètement scindées, il y a des moments... Quand t'as un patient qui fait un infarctus du myocarde, à un moment, effectivement, il faut... Ça n'empêche pas de parler, d'avoir des bons mots, mais d'avoir une attitude juste, mais après, t'es pris dans une impératif technique. Et puis je pense qu'à l'inverse, il y a des urgentistes qui ont des bons mots des fois. Je pense que c'est... Enfin, les choses sont...
Mouvantes, comme
le concept.
Je fais un lien aussi avec ce que disait Ange tout à l'heure, où aussi il y a aussi une pluralité de patients, de personnes qui viennent chercher le soin aussi dans des choses très différentes. Ouais. Il y en a qui vont pas supporter quelque chose de l'ordre du cœur, mais qui vont vraiment être plus à l'aise avec quelque chose du cœur. Et inversement. Et c'est aussi ça
qui fait
la complexité de ces métiers-là. Et en parallèle, il y a une autre idée que je trouve intéressante en lien avec ce que disait Jean. C'est, moi, ça me faisait penser à la question de l'attachement qu'on a beaucoup avec les enfants en foyer. Ouais. Où en fait, sans ces attachements-là, le travail, au fond, il ne se fait pas. parce qu'en fait c'est ce qu'ils viennent chercher et c'est ce dont ils ont besoin. Et on retrouve ça dans beaucoup beaucoup de pratiques, je trouve. Donc il y a ces questions d'attachement, et je trouve que ça pose aussi une question que je rencontre dans une autre pratique, plutôt avec la question de la délinquance, c'est la question de la sensibilité. En fait, j'ai l'impression que dans ces questions de relation, il y a aussi la question de sensibilité à soi qui permet la sensibilité à l'autre. Et inversement. Où en fait, des fois, c'est aussi l'intolérance à notre propre sensibilité qui fait que c'est pas accessible.
Bien sûr, que tu es bloqué sur des choses. Ou...
Oui, ou qu'il y a le cœur qui est parfois pas accessible aussi parce que.
C'est tout le travail.
Puis c'est la question de la violence derrière.
Non, et puis en plus, nous, dans notre
contexte,
on a accès à des enfants qui ont besoin de ce genre d'accompagnement.
Pardon,
mais surtout, moi, ce qui me semblait important de dire. Et tu le disais un petit peu, je crois, c'est que parfois, je suppose, quand on est praticien ou praticien du soin, il y a des jours aussi où on n'a rien à donner. En fait, on n'est pas capable. Ouais. Et le problème de cette professionnalisation, c'est ça, c'est que ça fige dans des rôles, et donc il faudrait être tout le temps en capacité d'avoir quelque chose à donner à l'autre, alors que peut-être qu'il y a des jours où en fait, pour des histoires diverses ou variées, on n'a rien à donner.
Après, il y a des cadres qui préservent aussi. Je trouve au niveau pro, on a des cadres aussi, des fois, qui nous permettent, même dans les jours où il y a un moins de... Faire un minimum ou maintenir un minimum.
Du coup, Aurore, tu parlais des jeunes en foyer. Et je trouve que le care, il doit être vraiment être présent. Parce que, en plus, c'est des personnes qui n'ont pas demandé à se retrouver là. Et qui, bah, justement, qui ont manqué de care.
Qui sont peut-être en manque d'amour.
Manqué de care, mais je parle pas d'amour, mais de soins. S'ils sont retrouvés là, c'est que bah, ils ont été négligés. Ou que leurs parents ne pouvaient pas s'occuper d'eux, et que le care est hyper important dans ces milieux-là, mais peut-être que aussi ils l'accepteront pas.
Oui, c'est ça.
Tu parlais de la violence parce qu'ils n'ont pas connu ça, du coup ils savent pas c'est quoi le care, et ils le prennent même limite comme une menace.
Comment y apporter le care aussi, on en parlait tout à l'heure avec l'injonction.
Et toujours en tant que professionnel, comment aussi vous protéger de pas être sensibilisé trop non plus, tu vois ce que je veux dire.
Ah, je pensais que tu parlais des injonctions.
On vous apprend, parce que
des fois,
il y a des situations qui peuvent être violentes, par exemple. Est-ce qu'on vous apprend à gérer ce genre de situation
Ou à te détacher Parce que moi, j'imagine si je travaillais dans ce genre de métier,
je
serais dur parce que... avec l'empathie, tu t'attaches, tu essaies de prendre soin et l'enfant peut devenir comme ton enfant.
Allez-y. Si ça vous va, je trouve ça bien qu'on organise un peu mieux la parole pour essayer aussi. Il y a plein de gens au fond qui n'ont pas participé encore.
On ne nous apprend pas à nous détacher, bien au contraire, parce que c'est au travers des émotions qu'on comprend beaucoup mieux les situations qu'on a devant nous. Alors même si ça peut être violent et que des fois ça peut nous ramener à des choses de notre propre vécu, voilà, mais en fait surtout pas se détacher, ça serait la pire des erreurs, parce que les émotions c'est notre matière première, donc c'est là où il y a tous les indices, c'est là où il y a tout.
Comment tu te protèges aussi après,
c'est ce que je voulais dire. Ils vous apprennent pas. Ok, je parlais pas de détachement par rapport aux situations, mais juste, est-ce qu'ils vous donnent des outils pour gérer? Ou est-ce que vous pouvez parler à quelqu'un? Vous êtes livré à vous-même.
Non, mais. Dans les institutions, en fonction des équipes, il y a plus ou moins de place pour le prendre soin. Et si tu as la chance de te retrouver dans des structures où il y a cette culture-là, alors t'es pas seul. Après, il y a aussi les amis. Il y a aussi des supervisions.
Personne n'apprend à être ami.
Mais oui, bien sûr, mais voilà, c'est ça qui est trop important, c'est ça qui te protège, c'est qu'en fait on n'est pas seul.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Ok. Est-ce que par là-bas, il y a des...
Remarques?
Janine,
t'as toujours un truc à dire. Sinon, peut-être moi, je voulais vous interroger sur la notion de rituel, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a intéressé, vous trouvez ça pas pertinent?
Moi, ça me fait associer à ce que tu disais tout à l'heure sur le processus. Enfin, je trouve que c'est intéressant justement de voir peut-être le rituel qui s'inscrit dans un processus pour devenir un langage commun.
Et je trouve qu'on peut aussi le relier dans la thérapie. Enfin, voilà, on parle de la divergence du soin et de la diversité des profils, de comment on accompagne. Et en fait, moi, j'essaie vraiment de le penser sous cet angle-là du processus, c'est que le processus, il est subjectif en fonction des personnes et de l'espace, et comment il va s'inscrire dans une certaine temporalité. Et ça vient interroger aussi toute cette question de la culture du langage aussi, parce qu'effectivement, on ne parle pas tous le même langage, on apprend à connaître la personne de façon différente. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de le penser sous ce sens.
Vraiment 100% d'accord.
Ouais. Je trouve notamment que, enfin, je me permets de faire un lien aussi avec ce que tu dis. En tout cas, moi, dans la pratique, je retrouve aussi beaucoup que du coup, ça nous amène aussi à sortir de certains protocoles aussi. En tout cas, en fait, je fais le lien avec cette question de relation. En fait, c'est aussi dans la relation qu'il y a quelque chose du processus qui s'installe. Parce que notamment, je vois dans le travail avec les enfants. En fait, c'est pas forcément souvent, bon, on va proposer tel jeu, puis ensuite on va faire telle chose, puis ensuite ça.
Et le protocole, c'est pas un rituel.
Mais justement, le protocole, pour moi, il peut s'inscrire dans la relation. C'est pas quelque chose qu'on clive. Ouais. Enfin, je pense notamment, je sais pas si ça parle, mais le MDR, qui est de la désensibilisation du traumatisme par les mouvements oculaires. L'OMS va le décrire aussi comme un traitement efficace, et ça revient à ces questions de cure, et je trouve que c'est souvent une injonction qui est renvoyée aussi aux patients qui viennent nous voir en nous disant combien de temps ça va prendre.
Ça veut dire quoi, redis, pardon?
Il y a une injonction le MDR, c'est de la désensibilisation du trauma par les mouvements oculaires.
C'est-à-dire par le son?
Non,
les mouvements oculaires.
C'est de l'hypnose. Oui, vraiment oculaire.
C'est le...
Non,
mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Enfin, je voulais juste terminer sur le fait que on vient souvent nous amener cette question de combien de temps ça va prendre, et on peut pas y répondre en fait. Et pour moi, le protocole, il est pas dissocié de la relation, il peut s'inscrire dedans.
Oui, bien sûr.
Enfin, je le pense comme ça en tout cas. Mais je pourrais t'expliquer ce que c'est un petit peu plus tout à l'heure peut-être.
C'est là où il apparaît intéressant justement le protocole. Il vient sécuriser quelque chose et ritualiser quelque chose là-dedans.
Je sais plus qui c'est qui disait, je l'avais vu en philo, je sais plus, certainement tu vas le savoir. Mais tu parlais des rituels de la vie du quotidien. Et je trouve ça très très beau parce que c'est vrai qu'on c'est nous quoi, dans la vie de tous les jours, la manière dont on interagit avec nous. Je crois que c'est Bergson qui disait qu'en fait l'art, c'est révéler ce que, entre guillemets, à l'œil nu, on ne voyait pas en fait. C'est révéler la beauté des gestes un peu du quotidien. Je crois que c'est Bergson qui disait ça.
Je sais plus. Tu peux t'attribuer.
Non, mais je me rappelle, ça m'avait, mais avec Monsieur Gazé, là, ça m'avait marqué parce que je trouvais que des fois, il y avait des beautés du quotidien qu'on ne voit pas trop. La beauté de t'es dans le bus et tu regardes par la fenêtre et t'es comme ça. La poésie du quotidien, tu vois. Et ça revient peut-être à ce que tu disais, que la poésie est un petit peu partout. Tu vois, dans tout ce qu'on fait, dans nos interactions avec les autres, dans cette bienveillance, dans le prendre soin, d'être conscient de nous-mêmes, de comment on est dans le monde. Et voilà, pardon, je suis un peu parti loin, mais...
Non, mais c'était super intéressant. Je vais vous raconter une anecdote avec Jean-Michel Breza. Donc, qui est la personne qui a fait ce magnifique tableau dont j'adore, qui est sur l'insurrection poétique, que Bernadette a, il a dans la main. Dedans, il y a des tableaux faits par Jean-Michel, et moi j'aime beaucoup.
Oui, j'aime beaucoup ces dessins.
Moi aussi.
C'est ça.
Oui, c'est ça, ok.
Et donc, pour dire que prendre conscience, c'est aussi... pouvoir être présent dans le moment.
Mais bien sûr.
Et donc, anecdote, on travaille avec Jean-Michel sur un texte. On sort de la salle où on travaille, on va manger, on revient dans la salle. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'allume la lumière, je me pose sur le bureau sans me poser de questions. Et Jean-Michel m'arrête, il me dit non. Il éteint la lumière, il me dit moi, je veux allumer la lumière de manière consciente. Alors, il voit un objet au fond de la salle, une espèce de punching ball bleu, qui ressemblait à rien, franchement. Et donc, il dit voilà, je vais allumer la lumière en pensant à tel Bouddha qui est associé à cette couleur bleue.
Okay.
Il allume la lumière. Et il vient de se raconter.
Le goût de la médecine.
Ok.
Quoi ?
Le goût de la médecine.
Le goût de la médecine, oui.
C'est vraiment ça.
Comment ?
Bah, c'est de la médecine qui est représentée en bleu et je me suis dit, j'adore le bleu. J'adore les couleurs bleues du goût de la médecine. Voilà.
Mais avec Lisa, on avait pas mal réfléchi sur la question de comment est-ce qu'on percevait le temps. Et notamment que l'on percevait le temps de manière beaucoup plus longue quand on était enfant. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus de choses qui étaient nouvelles pour nous.
Oui,
parce
qu'en fait, c'est sûr.
Alors que dans nos vies... Mmh. Oh, peut-être que Bernard peut le dire. Mais alors que dans nos vies quotidiennes, il y a tellement de choses qui sont routinières qu'elles n'existent même plus pour nous. Voilà. Donc, dans ce rituel-là, il y a aussi le reprendre pied dans le temps, habiter à nouveau le temps.
Ok. Je voulais revenir sur un truc qu'on a dit tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps d'attraper le moment. On parlait des professeurs et du prendre soin dans les contextes plus d'enseignement. Et bah, cette dernière année, j'ai été pas mal dans le monde de la formation. Ce que j'ai trouvé trop cool, c'est que j'ai été entourée de gens qui voulaient faire de ces espaces bah, des espaces de prendre soin et avec vraiment le principe que au plus on est bienveillant quand on est dans une position de formateur, formatrice, enseignant et tout, bah, les personnes qu'on a en face de nous, elles vont nous s'en charger. Et bon, là, du coup, c'était surtout pour former bah, des personnes qui allaient travailler avec des enfants. Mm-hmm. Donc, ça a tout son sens. Mm-hmm. Et tout à l'heure, pardon, j'ai oublié ton prénom.
Bernadette,
je t'ai entendu parler de contamination. De contamination, quand on parlait de aussi prendre soin dans l'espace, dans les espaces de tous les jours. Et je trouve que c'est la même chose en fait.
Ça se propage.
Au plus on a des exemples de bienveillance, moi qui ne sont pas. Enfin, bienveillance, ouais, c'est un terme que j'aime pas tout le temps, mais je sais pas
c'est vrai
dire à la place.
Pourquoi ?
Bah, c'est hyper générique, au final, des fois, on ne sait plus trop ce que ça veut dire.
C'est vrai ?
Ouais.
Pour moi, c'est une valeur positive.
Mais je sais pas trop quoi dire à la place, donc je vais continuer d'ici, c'est ça.
Non, mais prendre soin, du coup.
En descendant, la bienveillance, c'est ça qui peut être dérangeant.
Oui,
la
oui.
La bienveillance, un petit
ouais.
côté, parfois,
peut-être
un peu...
Peut-être que c'est ça
qui est vrai.
On regarde un peu par le dessus.
Oui,
oui. Oui, condescendant.
C'est vrai que c'est un mot qu'on n'est pas très à l'aise depuis avec.
Ok.
C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment le dire.
Non, puis...
La vraie dire, la bienveillance...
C'est pas... Vas-y.
Ça nous échappe finalement, la bienveillance. On ne sait pas qu'on est bienveillant.
Oui, ça dépend finalement. Des gens. Et puis bah, pour enfoncer une porte dans la société moderne.
Je ne veux pas me lever le matin en me disant tiens, je vais être bienveillante ce matin.
Ah, oui, non, mais c'est gentil.
Il y a des personnes qui sont comme ça. Ils vont se lever.
Mais gentil, moi je trouve que.
Ils vont se lever le matin.
Non, mais ils veulent faire le bien la société d'aujourd'hui. Il y a des gentils, c'est pas forcément positif.
Mais bienveillant,
oui, si ça veut dire bonnet.
Un peu,
tu vois, c'est vrai. Oh, il est bien gentil celui-là.
Oui,
mais je... bah, il est un peu bête en fait. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, être.
Oui. Bah, peut-être qu'attentif, c'est mieux.
Moi, c'était attention.
Je pense que quand je l'ai dit, c'est plus dans le sens d'être attentif
oui,
aux besoins des gens qui nous entourent, mais aussi à ses propres besoins.
Oui.
Et que au final, en cultivant cette
ses propres besoins.
Ah mais oui, c'est ça, parce que en portant attention à ses propres besoins, c'est là où on laisse aussi plus de place aux besoins des autres.
Bien sûr.
Et en cultivant cette attention, bah en fait, ça se propage sans même qu'on ait besoin d'en parler aux gens, parce que ça transpire.
Bien sûr.
Oui. Ça, c'est ce que c'est Christian Aubin qui disait, que pour lui, le mal est toujours un défaut d'attention. Quelque part.
Mm-hmm.
Donc, dès qu'il y a défaut d'attention, bah, il y a potentiellement risque de ne pas percevoir en fait ce qui est adapté, ce qui est juste, ce qui est de ne pas percevoir l'autre, etc. Enfin, ouais. Dans une forme de négation.
Ouais. L'attention. Ouais.
Donc là, le mot d'attention est clé. Après, ouais. Non, moi j'aime bien l'action que tu poses sur le langage. Ça me rappelle beaucoup tout le travail et le questionnement de Yves Bonnefoy. Je sais pas si tu...
Je connais
aussi. Ouais. Parce que lui, là, il a beaucoup travaillé là-dessus, sur le fait que le langage était toujours, toujours à côté de ce qui est manifesté quelque part. Et voilà, il parlait de la rose, qui, si on décrit, le poète qui décrit une rose, qui fane, etc. Qui, voilà, c'est pas pour autant que ça va nous faire rentrer dans la structure de l'expérience de ce qu'est le vieillissement, même si symboliquement on le comprend. Mais après, ce qui est pour moi intéressant, c'est le... cette question de comment le langage devient présence, justement. Moi, j'ai l'impression que, enfin, dans mon travail, en tout cas, de thérapeute, que c'est toute la question, vu que la parole entre nous, finalement, c'est quasiment... Enfin, c'est l'essentiel de ce qui circule, de palpable, en tout cas. Et voilà, comment le langage n'est plus une sorte de décollement, finalement, de la réalité, c'est-à-dire une représentation, quelque chose qu'on va montrer comme extérieur, en fait, toujours extérieur, et toujours catégorisé et figé dans une représentation. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut créer de l'adhérence, en fait? Moi, j'ai l'impression que c'est là où le langage poétique rentre en scène. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, il apparaît quand la représentation habituelle s'effondre. Et qu'en fait, il y a une sorte de descente, en fait, dans la matière de ce qui est manifesté, en fait. Travers pas mal de choses, il y a le langage, il y a la vibration, il y a la sonorité, ça peut être comme une incantation, ça peut être parce que justement toutes nos représentations tout à coup viennent être déboussolées aussi, donc la chose montrée, désignée n'est plus la chose qu'on s'imagine être, et voilà, et donc pour moi c'est vraiment comment le langage peut à un moment donné se rapprocher de la structure de l'expérience et de ce qu'on va nous-mêmes incarner en tant que présence au monde. Et devant quelqu'un, moi ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'on est à côté, c'est-à-dire dès qu'on est, je trouve, hein, dans un langage que j'appelle non poétique, c'est-à-dire qui va catégoriser, qui va être automatisé, qui va être surfait, qui va être... voilà, c'est terminé. Enfin, on perd l'autre à la seconde, quoi. Ça se ressent énormément. Et j'ai vraiment l'impression que le cœur, en tout cas, de ce travail, ça va être d'entrer dans cette forme de connivence, en fait, vibratoire à travers le langage, jusqu'à essayer de se mettre d'accord sur des représentations quand toutes nos représentations se sont déjà effondrées. Voilà. Enfin, je ne sais pas comment exprimer autrement.
Oui, mais justement, ce que tu disais, je suis déjà très d'accord. Mais c'est vraiment, pour moi, on peut l'expliquer très bien à partir du concept de métaphore. Pourquoi utiliser une métaphore? Normalement, il y a un mot qui est suffisant pour parler de la chose. Mais non, justement, et on parlait tout à l'heure, avant votre arrivée, de Jean Genet, Jean Giono, etc., ou Juliette Leduc, qui vont utiliser beaucoup de métaphores dans leur roman. Mais la métaphore, c'est pour essayer justement de dire quelque chose de plus que ce qu'on réussirait à dire si on utilisait le mot simplement. Voilà. Vous faites une métaphore sur un bateau, je ne sais pas, qui ressemble à une baleine, par exemple. Si vous savez que vous pourrez réussir à dire plus sur le bateau en l'appelant baleine, c'est un exemple, que en l'appelant bateau. Et ça qui est vraiment super important.
Mais c'est aussi que le langage, à un moment donné, pour moi, quand il devient poétique, c'est quand il commence à invoquer, tu parles d'évoquer, invoquer, hein, ce que disait Anne, et qu'à partir du moment où, pour moi, il y a une réalité qui commence à être invoquée à travers le langage, qui devient chair, en fait. C'est-à-dire qui devient sensation, qui devient émotion, qui devient présence, qui devient, je ne sais pas comment dire, une sorte d'interpénétration, en fait.
Tangible.
Et ben là, pour moi, on bascule dans une chose. Ouais.
Ça donne l'impression de la création d'intimité, en fait. Je ne sais pas si je vais me perdre là-dedans, mais comme on parle beaucoup de langage... Et moi, je me pose beaucoup la question du corps, de comment on est en relation même entre nous-mêmes avec notre corps, avec les autres corps. Et parfois, j'ai eu l'impression que des fois, le langage venait limiter des choses que notre corps, en fait, est l'essence de ce qu'on peut exprimer et tout. Mais ça part très, très loin et c'est plus profond. Enfin, je pourrais pas plus développer. Mais voilà, j'ai beaucoup une question du corps, notamment après avoir étudié un peu de la philo, où on est beaucoup dans le cerveau, dans la réflexion et tout, et moi qui fais de la danse, je me suis toujours dit... Mais d'ailleurs, il me semble qu'à un moment donné, tu as parlé dans ta...
Est-ce que tu as parlé de prière ou pas? Je sais plus.
Oui.
Prière,
prière,
c'était une phrase de Jean-Michel.
Et je me rappelle, mais alors ça va être ma citation, mais je me rappelle que des fois je dansais et je me disais, mais en fait je suis en train de prier. Parce que mon corps exprimait des choses que des fois, peut-être dans ma pensée même, j'aurais pas pu l'exprimer. Donc via mon corps, j'allais chercher des choses que j'aurais pu. Voilà. Et c'est ça que je voulais parler. Et voilà, et notre relation au corps qui est aussi très. Qui dépend de notre culture et que. Voilà, c'est un autre point. Mais, voilà, et des fois le langage peut lui
donner. Je voulais dire quelque chose, mais je pense que. Je sais pas si ça se. Comment dire, c'est dans ce sujet-là. Enfin, parler de langage du corps. Par exemple, moi je sais que je suis quelqu'un d'assez anxieux, et par exemple, des fois mon corps il parle pour moi. Par exemple, tout à l'heure on s'est retrouvés, et vu qu'il y avait toi, que j'apprécie beaucoup, il y avait ton ami, et je me suis mise à trembler un peu.
Oui.
Et moi je sais que je peux voir ça des gens, et moi ça, bah, du coup ça me renvoie aussi au moment où je suis comme ça, et ça me. Le corps parle sans que
au-delà de...
et moi ça peut me gêner, enfin je suis mal pour la personne.
Le corps parle en fait.
C'est ça, on a un dialogue alors que la personne ne sait même pas qu'on dialogue.
Ouais. Ça c'est hyper intéressant et je trouve que dans moi ce que j'avais lu à l'époque, maintenant je ne lis plus trop, mais je trouvais que le corps était très absent. De nos... À la limite peut-être via l'anthropologie, je l'ai retrouvé un petit peu ce rapport au corps, mais je trouvais que c'était très absent.
Comme je disais au départ, on se base beaucoup sur la philosophie de phénoménologie.
Rappelle-moi phénoménologie, j'ai essayé de le chercher sur mon téléphone, je ne me rappelle plus.
Le phénomène, c'est ce qui apparaît.
Et c'est qui le maître de la phénoménologie? Rappelle-moi le nom.
Edmond Husserl, Maurice Merleau-Ponty.
Il n'y a pas
Heidegger.
Hegel, ok.
Et si tu veux Husserl, ce qu'il dit, en partant de cette idée que l'autre est très peu accessible, il dit la façon première de connaître l'autre, c'est par son expression corporelle.
Ouais.
Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, quand je te vois faire comme ça, moi ça me rappelle que peut-être que quand je fais comme ça, c'est que je suis en pleine concentration, que j'adhère.
Le phénoménologie, c'est le fait de choper les instants, les images, en fait, c'est ça un peu.
En fait, plutôt que de dire que je peux savoir qui tu es fondamentalement comme un objet, en fait, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux savoir comment tu m'apparais, la façon dont tu m'apparais.
Oui, voilà.
Ce qui apparaît, c'est le phénomène.
Parce que tout ce qu'on peut voir, c'est.
On peut connaître ce qui apparaît à soi.
Voilà, ce qui apparaît à nous. Oui.
Et fondamentalement, on est dans la
situation. Et même en allant plus loin, ça apparaît à nous déjà avec un filtre.
Et Husserl nous dit que l'objectivité n'existe pas et n'existera jamais.
Ouais.
Et que c'est le malheur de l'humanité de croire en objectivité.
C'est pour ça
que la société est malade.
Et quand tu vois que tu commences à voyager, que tu vois que les gens ils ont un rapport au corps totalement autre, des câlins plus présents dans les sociétés peut-être plus latines, des choses comme ça, tu vois. Je trouve ça trop intéressant.
Et je pense qu'on connaît l'autre par son corps, mais qu'on n'en a pas conscience. C'est-à-dire qu'en fait, on voit comment est l'autre, on le sent, et on a l'impression que quelque chose passe par les mots, alors qu'elle passe beaucoup par le corps. C'est comme ça que dans une soirée, on peut avoir une sympathie pour quelqu'un alors qu'on ne lui a pas parlé.
Mais
il a l'air sympa, lui.
Mais bien sûr.
Notre
façon d'être, notre façon de nous voir.
Là, ça peut être totalement au contraire.
Et exactement.
Ah, lui-là, non, je ne vais pas lui parler.
Et c'est sûr que, bien sûr qu'il y a des choses, des énergies qui passent au...
Et on peut tomber amoureux sans parler, quoi.
Exactement.
Mais l'apparence peut être fausse, hein.
Oui, et aussi, mais bien sûr. Mais bien sûr.
Alors, t'as raison, Jeanine. Des fois, il faut aller à l'encontre de ce que tu penses.
C'est tout à fait faux, ça. C'est vrai. Bon, alors ça révèle quelque chose, si l'apparence peut être fausse. Ça veut dire quelque chose. C'est une peur, comme tout.
C'est ta raison, Jeanine, je sais pas.
Mais c'est super intéressant quand tu as une dissonance justement, un manque de congruence en fait entre ce qui est exprimé verbalement, ce qui émane
et l'énergie,
fait du corps justement directement.
Une jovialité qui en fait cache quelque chose de peut-être bien plus sombre ou des choses comme ça.